De la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin et Guillaume Munier à la réalisation pour nous reposer de drôles de questions sur un animal sauvage qui fut longtemps considéré comme notre pire ennemi, le grand méchant loup. Ce prédateur carnivore qui a cristallisé nos plus grandes peurs, contre lequel l'homme a livré une guerre sans merci pendant plus de 2000 ans, est aujourd'hui devenu un animal protégé, ce qui n'est pas sans susciter de nouvelles tensions. Comment expliquer les rapports si conflictuels que l'homme entretient avec les loups et cette guerre sans fin qui les oppose? Voilà ce que nous avions tenté de comprendre avec l'historien Jean-Marc Morisseau en mai dernier. Ce spécialiste de l'histoire des campagnes et de celle du grand méchant loup nous avait tenu en haleine en tordant au passage le cou à pas mal d'idées reçues autour de la question « Pourquoi l'homme a peur du loup ?» Bienvenue. Bonjour Jean-Marc Morisseau.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes historien, professeur à l'université de Caen, spécialiste des sociétés rurales et de l'histoire des campagnes. C'est ce qui vous a amené à vous intéresser au loup et au rapport homme-loup en France comme en Europe. Vous continuez d'ailleurs de mener l'enquête. Vous revenez juste ce matin même de Roumanie. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, dont Histoire du grand méchant loup, 3000 attaques sur l'homme en France entre le 15e et le 20e siècle, ou encore le collectif Repenser le sauvage grâce au retour du loup. Et là, vous venez de publier aux éditions Fayard L'homme contre le loup, une guerre de 2000 ans. On peut dire que le loup, le grand méchant loup, est l'animal peut-être qui a mobilisé à la fois le plus d'énergie pour son éradication et qui suscite encore aujourd'hui des passions dans tous les sens, très conflictuelles. Et vous avez cherché à comprendre pourquoi, c'est ça ?
Oui, en tant qu'historien du monde rural et spécialiste depuis maintenant 2 décennies de l'histoire des campagnes, j'avais rencontré le loup, j'allais dire, non seulement au coin du bois, mais au coin du champ, au coin des prés, puisque le loup était l'ennemi public numéro 1 du bétail, de l'Antiquité jusqu'au 19e et même jusqu'au 20e siècle. Et à ce titre, on le voyait beaucoup dans les archives. Mais je l'avais rencontré aussi occasionnellement en tant qu'animal enragé, voire aussi en tant qu'animal attaquant l'homme. Si bien que lors du débat qui s'est vraiment aiguisé entre adversaires et partisans du loup.
Lors du retour du loup en France.
Voilà, depuis maintenant une quinzaine d'années, l'historien avait déserté le débat. Et il me paraissait utile d'apporter une contribution scientifique appuyée pour le grand public, mais également pour les collectivités et les parties en présence.
On va se rendre compte, en tout cas, que personne ne reste indifférent au loup autour de la question « Pourquoi l'homme a peur du loup ?» Première piste sur les traces de notre imaginaire avec le mix de Guillaume.
Et maintenant, voici l'histoire. Écoutez bien.
Les loups, oh, oh, les loups ont regardé vers Paris.
Malgré les prières, la bête s'enhardissait. Elle attaquait maintenant en plein village. Fortes griffes, grosses têtes, gueule énorme et queue très fournie qu'elle agite en grognant.
Les loups regardent vers Paris.
Pourquoi le loup hurle ? Alors ça, c'est surtout au niveau des sites de rendez-vous. Ça sert pour le ralliement des petits au site des rendez-vous où ils sont laissés justement pendant que les adultes chassent.
Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards.
À peine Pierre était-il parti qu'un gros loup gris sortit de la forêt.
Et il est passé à 2 mètres de moi dans les grandes herbes et il remonte dans un maïs. Il s'en va, j'attends qu'il soit un peu plus loin et moi je m'assois. Mais manque de peau, il revient droit sur moi. Donc là, je suis en position d'attaque. Donc là, je me suis sauvé.
T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas.
Mais pour leur donner confiance, je leur fais de longues et grandes caresses tout le long du corps. Et puis je respire. Pour ces animaux, il est question de respect, d'entraide et de lien familial.
Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles.
C'est pour mieux écouter, mon enfant.
Jean-Marc Morisseau, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre ?
Alors là, on a les images ambivalentes du loup, c'est-à-dire à la fois l'image terrifiante, négative, qui tire parti d'éléments du passé en général, qui se sont produits dans des circonstances particulières, voire exceptionnelles, par rapport à la réalité ordinaire qui est mise en valeur, évidemment, aujourd'hui, d'un loup beaucoup plus positif.
Donc on est toujours aujourd'hui entre les deux autour de la question, on va remonter un peu le temps, d'abord pourquoi l'homme a peur du loup. Vous nous rappelez tout de même, donc en tant qu'historien, vous avez mené l'enquête, que l'homme a eu tout de même bien des raisons d'en avoir eu peur du loup. Vous avez recensé plus de 3000 attaques de loups en France.
Alors en fait c'est juste une petite partie des attaques, mais il fallait que je constitue un échantillon suffisant pour pouvoir faire un tour de France et offrir aux lecteurs vraiment des éléments d'analyse. Donc dans l'histoire du méchant loup, qui était la première étape, publiée il y a 4 ans, j'ai rassemblé 3000 cas d'attaque. Mais l'enquête continuant, j'en suis à 5600, ce qui confirme d'ailleurs la répartition dans l'espace et dans le temps de ce que j'avais vu dans le premier ouvrage, en quelque sorte.
Donc l'histoire du grand méchant loup, le loup effectivement s'attaquait beaucoup à des enfants, c'est ça que...
Alors,
donc le petit chaperon rouge, ça a bien existé.
Oui, il y a eu des milliers de petits chaperons rouges, mais le problème de ce méchant loup, c'est qu'il faut le remettre toujours dans un contexte. Il ne s'agit pas de période ordinaire, il s'agit en général de périodes dramatiques où il y a des fléaux comme des famines, par exemple, des pestes ou des guerres civiles qui sèment des cadavres, qui rendent l'humanité très vulnérable. Et d'autre part, il s'agit de sociétés dans lesquelles les enfants ont un rôle actif comme aides familiaux dans des campagnes qui se situent souvent près des bois, avec des pâturages qui sont entourés de forêts.
Ce sont les enfants qui gardent le bétail,
oui,
et qui sont tout seuls pour le garder.
Exactement. Mmh. Et pas n'importe quel bétail, beaucoup moins les moutons que les bœufs, hein, ou que les vaches. Or, évidemment, quand des enfants de 6 ans ou 10 ans, mal nourris ou portent de la famine, gardent des vaches, il n'est pas impensable de voir que des loups particulièrement audacieux aient considéré que la proie était beaucoup plus tentante et plus facile que les bêtes à cornes.
Parce que, rappelons-le, le loup, il est carnivore, il peut aussi être anthropophage, donc manger des hommes, mais a priori, il n'attaque pas l'homme comme ça. Il attaque des petits qui gardent du bétail à l'orée de la forêt et qui sont dans des périodes de grande disette.
Disons que quand la société humaine est bien organisée, solidaire, et que l'homme affirme sa puissance sur le territoire, le loup en a peur. Et c'est le cas des sociétés actuelles, en règle générale. Et dans ces conditions, le loup n'attaque pas l'homme. Enfin, n'attaque presque jamais l'homme. Faut jamais dire jamais. Mais dans les sociétés extra-européennes ou dans les sociétés du passé, il n'en allait pas ainsi, puisque les populations étaient beaucoup plus vulnérables, puisqu'elles occupaient l'espace beaucoup plus largement, en conflit d'ailleurs avec le loup qui était partout lui aussi. Et il est évident que les enfants n'allant pas à l'école, par exemple, constituaient les maillons faibles de la société, puisqu'ils étaient employés pour non seulement garder des troupeaux, mais également dans les activités en plein air de l'économie, hein, à tout moment. Et dans les moments les plus favorables pour lui, le loup, de temps en temps, intervenait. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand Perrault écrit « Le petit chaperon rouge » dont on parle, on est en 1691, puis c'est mis d'abord en vers, puis en prose. Disons, c'est entre 1691 et 1697, les contes de la Merlois. C'est la décennie où on enregistre en France le plus de victimes humaines des loups. On peut considérer qu'il y a plus d'un millier d'enfants qui disparaissaient sous les crocs des loups en France entre 1691 et 1697.
Hein. Donc le loup était effectivement à cette époque-là le grand méchant loup, mais parce que les hommes avaient laissé toutes les conditions pour qu'il soit le grand méchant loup et pour qu'il puisse comme ça égorger les petits enfants qu'on...
Et effectivement, en étant prudent sur la notion de responsabilité. Mais les conditions existaient, des rapports entre l'homme et l'environnement, pour faciliter quelques attaques occasionnelles de l'homme, du loup sur les enfants. Et on sait qu'un loup, quand il a réussi une attaque sur des enfants, il revient. Il y a un phénomène d'imprégnation, si bien que c'est pas une victime, et ça peut être 5, 10, 15 ou 20 victimes d'un même loup.
Or, d'où le loup devenu à l'époque ennemi public numéro 1. On comprend pourquoi tant de mal, s'est donné tant de mal pour l'éradiquer, justement.
Oui, mais le loup était ennemi public numéro 1 depuis déjà beaucoup plus longtemps, en tant qu'ennemi du bétail et de l'élevage. Hein. Ce n'est qu'occasionnellement, à la faveur de troubles, que le loup était aussi l'ennemi public numéro 1 de l'homme en direct. Hein. Et c'est dans ces circonstances-là que la mémoire, évidemment, était très négative, que des psychoses collectives s'instauraient et que des images terrifiantes du loup ont trouvé à se développer. Et les contes de Perrault ont trouvé dans les villes un lectorat extrêmement disposé à les recevoir à une époque où de nombreux enfants étaient victimes des loups.
RFI.
Woman the Voice ou The Wolf Song, la voix du loup sur RFI, autour de la question pourquoi l'homme a peur du loup. Nous sommes en compagnie de l'historien Jean-Marc Morisseau, spécialiste de l'histoire des campagnes, qui vient de publier L'homme contre le loup, une guerre de 2000 ans. Alors vous nous signalez, Jean-Marc Morisseau, qu'en France au XVIIIe siècle, on compte entre 15 à 20 000 loups et partout sur le territoire français.
Effectivement, depuis les Landes bretonnes et la pointe du Finistère, jusqu'au Rhin et au Ried alsacien, depuis les dunes de la France du Nord, jusqu'aux Albères, tout près de la frontière avec l'Espagne, le loup était partout, parce que il s'adaptait à
même
toutes les situations environnementales. Ah oui, près des villes, et il a même, non seulement près des villes, mais il est entré dans nombreuses villes. J'ai pu faire un tour de France, des villes qui avaient été parcourues par le loup, à titre de loup enragé, de loup prédateur ou de loup charognard, et on en voit depuis Grégoire de Tours en 580, jusqu'à Saint-Flour en 1880. Sur 13 siècles, le loup a périodiquement été dans les villes françaises et il a été à Paris en particulier pendant 5 vagues successives pendant la guerre de Cent Ans.
Alors face à ce grand méchant loup qui fait si peur pour de vrai, vous nous l'avez montré, comme aussi pour de faux, une nouvelle question pour vous, c'est celle de Pierre Vallée, notre assistant d'émission. Écoutez donc notre Pierre et le loup.
Bonjour, il existe beaucoup de contes et de légendes qui associent l'homme et le loup, comme l'histoire de cet enfant élevé par des loups, ou les histoires de loups-garous, d'hommes qui se transforment en loups. Je me demandais pourquoi les loups étaient les seuls qu'on associait aux hommes de cette façon. Par exemple, il y a d'autres animaux qui nous impressionnent, qui nous font peur, mais il n'existe pas de légende avec des lions-garous ou avec des ours-garous. Et ma question était donc de savoir pourquoi les loups-garous.
Votre réponse, Jean-Marc Morisseau, pourquoi les loups-garous ?
Eh bien, parce que le loup, en Europe, constitue le seul grand prédateur concurrent de l'homme. On trouve des situations similaires avec le tigre en Asie ou le lion en Afrique. On a à ce moment-là des processus tout à fait comparables, hein, d'identification du sauvage et en même temps de la férocité, hein, au sein d'un animal à qui on prête les événements les plus dramatiques souvent. Hein. Alors le loup-garou en France prend place dans les séquences les plus meurtrières.
Où effectivement... Dans la manière aussi qu'il a d'égorger ses pauvres petites victimes, il y a quelque chose de cet ordre-là
Oui, et surtout...
sans diaboliser le loup, mais c'est ce que l'homme retire. Hein.
Ça tient du traumatisme. C'est-à-dire que l'immense majorité des loups ordinaires, effectivement ayant peur de l'homme, étaient considérés avec prudence, bien entendu, mais avec une certaine décontraction par l'homme qui, avec son courage, réussissait à les repousser. En revanche, une toute petite minorité de loups, peut-être 1%, mais il y avait 20 000 loups en France. Hein. Donc il en restait 200 qui pouvaient être vraiment dangereux, sortaient
enragés
de l'ordinaire.
Enragés ou en plus
Alors,
enragés
tantôt enragés, et un loup enragé, lui, saute à la gorge de tout être vivant qu'il rencontre, sans pouvoir, à proprement parler, vraiment le manger, puisqu'il a une paralysie du pharynx, mais il le décharne, il le griffe, il le scalpe, et cela crée des lésions épouvantables qui entraînent la rage après. Et c'est une maladie terrible. Soit des loups prédateurs qui sélectionnent auprès de la population humaine les éléments les plus faibles, les plus vulnérables, pour pouvoir les considérer comme une proie et éventuellement les égorger, ensuite les entraîner, les dévorer en partie jusqu'au moment où les secours arrivent. Or, ces éléments dramatiques ont souvent donné naissance à l'image du loup-garou, hein, ou de la bête d'ailleurs, parce que ce n'est pas le loup ordinaire qui attaque vraiment l'homme et qui commet des meurtres en série. Aux yeux des populations, ça ne pouvait être qu'un loup maléfique qui était empreint en quelque sorte de légende et de surnaturel, d'autant plus que, comme il y avait 20 000 loups en France, il eût été impensable de considérer que tous les loups en puissance aient pu être aussi dangereux. Ça n'aurait pas été vivable pour l'humanité. Donc, les populations savaient très bien que c'était qu'une toute petite minorité de loups, et pour les distinguer des autres, et pour faire le deuil également des cadavres successifs auxquels ils donnaient lieu, avant qu'on les éradique, on leur donnait le nom de loup-garou, c'est-à-dire de loup dont il faut se garer, ce qui veut dire se protéger, et on attribuait toute une série de légendes autour de ces loups-garous, ou bien on les appelait des bestiae, c'est-à-dire des bêtes féroces, on disait c'était la bête, d'où la bête du Gévaudan, la bête du Gâtinais,
etc. La bête du Gévaudan, justement, ce sont plusieurs loups alors, excessivement féroces, ou peut-être...
Voilà, en allant très vite, parce que là, la question supposerait évidemment des réponses nuancées et particulièrement longues, la bête du Gévaudan n'est qu'un épisode parmi une vingtaine d'autres bêtes qui ont sévi en France entre le XVIe siècle et le début du XIXe siècle, où à chaque fois les mêmes circonstances, les mêmes réalités s'observent, c'est-à-dire qu'il s'agit à chaque fois d'un, deux, trois ou quatre loups qui, effectivement, sont des loups en quelque sorte déviants des autres et qui ont attaqué l'homme en série.
Et qui ont attaqué l'homme en série, vous l'avez dit, au moment de grandes misères, de famine, de disette, de périodes de guerre et de troubles. C'est peut-être ça aussi qui fait que les hommes et le loup ont des rapports conflictuels, parce que le loup, il est intelligent et il s'est infiltré finalement dans les faiblesses et dans les horreurs des hommes.
En étant prudent, c'est-à-dire que il y a deux types d'époques où le loup a attaqué l'homme, puisqu'il est question des attaques sur l'homme. Encore que celles sur le bétail sont encore plus nombreuses. Premier type d'époque, les époques de désorganisation de la société, avec tous les fléaux que vous avez évoqués, c'est évident. Mais deuxième type d'époque, c'est l'époque de la bête du Gévaudan. Il n'y a pas d'épidémie, hein. Il n'y a pas de guerre civile à l'époque de la bête du Gévaudan. Simplement, il y a une situation de retard économique et culturel de cette région par rapport à la France des Lumières, qui met bien en évidence, justement, une vulnérabilité, une fragilité de certaines populations
dans laquelle qui sont exposées au risque. Dans laquelle le loup va s'infiltrer, s'insinuer. On va poursuivre ce grand méchant loup dans 3 minutes, juste après le flash d'info autour de la question « Pourquoi l'homme a peur du loup ?» On se demandera aussi pourquoi il n'en a plus peur aujourd'hui et pourquoi le loup suscite quand même toujours tant de passion. Pour rester avec nous, Jean-Marc Morisseau, à tout de suite.